Armand Sylvestre, en pleine fantaisie. Ces premiers jours d'automne sont ceux des promenades les plus belles à travers la mélancolie naissante des bois, un frisson de rouille à peine couvrant aux cimes des grands arbres dans l'ensanglettement des plantes grimpantes. Sur le sable tiède encore des allées, s'abat l'agonie muette des papillons dont les ailes lentes palpitent sans trouver le bleu chemin du ciel. Les ruisseaux emportent à travers la mousse comme des avares une proie d'or des premières feuilles mortes. Ils volent des souvenirs dans l'air vide de parfums vivants. Les souvenirs des belles heures vécues et parties dans les subtils déjà lointains du printemps. Nous nous étions promis, celle qui m'aime ailleurs que le printemps et moi-même, d'aller loin, bien loin, dans les paysages d'où Paris n'apparaît que comme un troupeau couché dans un ravin et qu'un berger nommé Panthéon garde enveloppé dans son lourd manteau. Nous avions pris le train, tout à cette pensée de respirer dans l'arôme mortel des déclins, les joies qui nous furent communes dans quelques coins perdus de la forêt, dans la musique vague des branches qui vibrent comme des lyres sous la laine plus proche du ciel, dans le tressaillement des choses qui se sont belles avant de mourir. Elle portait encore une robe d'été aux transparences exquises, mouchetée de petits points rouges comme des gouttes de sang. Une robe impertinente qui semblait défier le premier froid des soirs plus tôt venus. Jamais elle ne m'avait paru plus charmante et plus mystérieusement redoutable, avec son sourire énigmatique de joconde et ses lourds cheveux de bacchante maladivement retroussés sous la paille du chapeau. Et moi, qui subis toutes les tristesses de la nature comme les moineaux francs, mais plein de terreur superstitieuse devant cette beauté souveraine épanouie dans l'universel des enchantements, car il n'est de peine réelle et de joie vive, vraie, que dans l'amour. Ah noir, blanc, y bleu, ô rouge, ô jaune, sic. Dis-tu de voir, ami, derrière moi, au moment où l'ombrelle de mamie à la main et rabattant soigneusement ses jupes devant moi, j'allais monter en wagon. Je reconnus immédiatement le timbre de Paul Arène, et aussi dans ce discours étrange, la formule symbolique des décadents, la sibylline verset de l'évangile d'Arthur Rimbaud, qui le premier fit de l'alphabet une palette, et dont Paul Verlaine, dont j'admire fort le talent, ne jure que par Saint Jean précurseur. Oh, j'aurais maudit tout autre voisinage que celui de l'auteur de Paris ingénu et de la gueuse parfumée, c'est de merveille du beau français. Mais la reine me jura qu'il nous quitterait dès le premier bouquet d'arbres pour méditer lui-même solidairement et penser à Cicéron tout à son aise. Et après ce serment solennel, il reprit « Oui, à noir, blanc, y bleu, au rouge, y jaune. » Ce qui a toujours distingué Paul Arène est un vrai sentiment de contradiction qui, presque toujours chez lui, n'est qu'une révolte du sentiment de justice. Et cette pauvre consonne, me dit-il tout à coup, furieusement, comme un homme qui vient de découvrir une grande iniquité sociale, qu'est-ce qu'elles avaient fait à ce monsieur Rimbaud pour qu'il dédaignât de leur donner une couleur? Oui, c'est en effet, lui répondis-je, la marque d'esprit étrangement partiale. Et durant ce temps, ma compagne rêveuse chiffonnait délicieusement les clartés de sa jupe dont le pointillage de pourpre semblait s'égrener comme un chapelet dans ses doigts blancs, doigts gantés. Et elle semblait très absorbée dans cet ouvrage et profondément indifférente au regard passionné dont je l'enveloppais, tout en écoutant les belles choses que disait le poète. Oui, certes, c'est une infamie, reprit celui-ci, que ce délaissement des consonnes. Oh, mais je les vengerai, moi. Moi aussi, je lancerai mon cri de guerre dans le chemin du progrès poétique. Et Arène s'écria d'une voix forte, comme un héros d'armes qui somme citadelle de se rendre. B noir, C blanc, D bilieux, F caca dauphin, na. Et je défie qu'on me prouve que je les vois autrement. C'est sur cette proclamation vigoureuse que nous descendîmes pour nous séparer. Qu'il faisait bon, grand Dieu, dans la fraîcheur des ombres traversées çà et là par les flèches amorties du soleil, lesquelles semblaient s'ébarber en un éclaboussement d'or en se brisant aux branches. Nous avions marché tout d'abord devant nous, au hasard des allées qui s'ouvraient à nos pas. Des allées se fermant encore en dômes verdoyants, d'où les vignes vierges pendaient comme des stalactites flottantes. Une nature, de temps en temps, une halte pour prendre un baiser sur les lèvres qui lui se serraient malicieusement pour voler une étreinte muette dans le silence fait pour le laisser entendre que les battements du cœur. Elle avait des peurs charmantes, mais cruelles pour moi, que sa robe ne fût fripée dans mes embrassements ou qu'une caresse maladroite décochât sur ses épaules l'édifice mal solide de son chignon. Et de quoi aurions-nous l'air ensuite? Oui, de quoi? Un peu de lassitude lui vint enfin de cette marche à l'aventure. Des petits pieds ne sont pas faits pour les longs voyages des pèlerins. Mais où s'asseoir, je vous prie? L'alu de gazon n'était pas rare, mais l'herbe en était fraîche encore des rosées matinales, que ne sèche plus la soif ardente des midis ensoleillés. Alors nous dûmes renoncer pour cette raison à beaucoup de sièges naturels et commodes. Mais une halte en bois n'est pas un bain de siège. Elle était fatiguée, cependant, très fatiguée, la chère créature. J'appelais à mon aide le génie de Robinson. Il y avait là, tout autour, des branches coupées. Quelques mandarins, malandrins, qui avaient commencé sa provision hivernale et que le garde champêtre avait dû troubler dans son nocturne larcin. De mon paletot, plusieurs fois replié, je vis un coussin très convenable et l'élevai par derrière un échafaudage de mouvoirs délicieusement élastiques, une façon de d'osier pliant et souple sur lequel il était exquis de s'appuyer. C'est dans une clairière largement aérée et notablement moins humide que ses environs que j'improvisais si ce trône à qui je voudrais assise dans mon cœur, si Dieu ne lui fait si large que le trône légendaire de Guingobert, le mal nommé et le mal culotté. Qui dira les charmes de sa personne ainsi voluptueusement installée, l'alanguissement de son corps le long de cette grasse canapé, et la délicieuse façon dont ses jambes lasses se rejoignaient au croisement des chevilles. Oh, j'étais en contemplation véhémente devant ce spectacle merveilleux, qui, véhément et passionné, oui, car jamais son beau regard n'avait été moins sévère et son sourire plus engageant. Oh, je lui tins plus, je me précipitais à la diable. Crac, 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 le menuboir se mit à crier, puis à rompre. Et tout en se défendant, voilà qu'elle perd l'équilibre et roule sur le dos dans un enveloppement si imparfait de ses jupes que jamais pleine lune aussi complète enchanta mes regards. Toute la lyre, quoi, mais sans musique cependant. Elle m'avait pardonné sans doute, car nous revenions bras dessus, serrés de très près l'un contre l'autre. Elle avait été bien en colère, pense cependant. Elle m'avait juré de ne plus me revoir. Moi, j'étais encore sous l'éblouissement de ce que j'avais vu, terrassé par cette apparition victorieuse. Le voyageur qui attendait du regard les blancheurs de l'Himalaya, nuageux, neigeux, n'éprouva jamais une fierté pareille dans l'âme. Le séraphin glorieux qui exerce dans les jardins paradisiaques l'emploi de jardinier des lys célestes ne marche pas non plus solennel dans son rêve étoilé de candeur. Le tranquille pasteur de constellation qui mène brouter les astres dans les plaines de la Voie lactée ne repeint pas plus de délicieusement ses yeux de cette clarté d'argent éparse dans le ciel. Il roulait sous mon front, dans mon cerveau élargi, comme une planète énorme, l'astre aperçu dans la nuée des mousselines envolées. Oh ! Ce fut elle qui poussa ce petit cri, dont je fus réveillé. Au détour d'un sentier, un homme s'était-il pas dressé devant nous, un homme pensif qui semblait perdu dans une rêverie sombre. Rassure-toi, fis-je doucement à ma compagne, c'est pas la reine qui fait des vers. Et m'approchant du solitaire, nous avait si fort effrayé, mais que mon amitié avait reconnu avant mes yeux. « Mais qu'as-tu qui te rende aussi malheureux ?» lui demandai-je. Ben, « Je cherche, répondit-il d'une voix où tremblait l'impatience, de quelle couleur peut bien être le cul ?» Ne voulut pas troubler sa méditation davantage, nous le retirâmes discrètement. Moi bénissant le Seigneur, de ce que pour une fois, Il avait rendu plus érudit que mon camarade, moi, d'ordinaire bien plus savant que moi.